Chapitre 11. Les réformateurs et le don de prophétie. Denis Fortin. Comme cela a été mentionné dans les chapitres précédents, les adventistes du septième jour croient que le don de prophétie est l'une des caractéristiques du peuple du reste. En 1890, dans l'introduction du livre d'Ellen White intitulé en français « Patriarche et prophète », Uriah Smith, qui était alors rédacteur en chef de la revue « Review and Herald », écrivit « Un certain nombre de prophéties explicites, Actes 2, versets 17 à 21, 1 Corinthiens 1, verset 7, Apocalypse 12, verset 17, 19, verset 10, déclarent que dans les derniers temps, il y aura une effusion particulière du Saint-Esprit, et que lors du retour du Christ, l'Église aura le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. Les adventistes croient à la manifestation du don de prophétie parce qu'ils sont convaincus de la pérennité des dons spirituels mentionnés dans les épîtres de Paul. Romains 12, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, 27 à 31. Éphésiens 4, verset 11. Ces dons ont pour but de fortifier l'Église. C'était le cas du temps des apôtres et il en sera ainsi jusqu'au retour du Christ. Éphésiens 4, versets 12, 13. Ce chapitre aborde la question de la pérennité du don de prophétie selon la perspective des réformateurs protestants du XVIe siècle. Nous étudierons ce que disaient ces réformateurs au sujet des dons spirituels, des visions et de la manifestation du don de prophétie. Nous constaterons que les réformateurs en vinrent à une conclusion très différente de celle d'Uriah Smith. Une centaine d'années après le décès d'Ellen White, certaines de leurs positions sur les dons spirituels interpellent les adventistes du septième jour et leur approche du don de prophétie. Le don de prophétie à l'époque de la Réforme. Voici ce que déclare Diane Watt. Tout au long de la période médiévale et des débuts de l'ère moderne, quel que soit leur rang social ou leur niveau d'éducation, des hommes et des femmes se sont déclarés prophètes et ont affirmé avoir des visions venant de Dieu dans le but de proclamer son message au peuple. Le contenu de ces révélations divines pouvait être doctrinal, sotériologique, apocalyptique, millénariste ou chiliastique, orthodoxe ou hérétique, religieux ou politique. Ces révélations prophétiques pouvaient prendre différentes formes. Certaines personnes étaient des prophètes ou des porte-paroles de Dieu et elles prédisaient parfois l'avenir dans le sens populaire du terme. D'autres personnes étaient des mystiques et vivaient en communion étroite avec Dieu. D'autres encore avaient des révélations sur la perfection, alors que certaines personnes étaient visionnaires et recevaient des révélations sur les réalités transcendantes. En France, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, ces personnes ayant le don de prophétie pensaient être appelées à transmettre un message divin et à témoigner auprès du monde. Les visionnaires catholiques et protestants étaient nombreux à l'époque de la Réforme. Pourtant, tous les réformateurs magistériels du XVIe siècle rejetaient les rêves et les visions prophétiques et ne pensaient pas posséder ce don de prophétie surnaturelle. Pour eux, le don de prophétie n'avait plus d'utilité depuis la fin de la rédaction du Nouveau Testament. Cette conclusion s'explique en partie par les excès et le fanatisme de certaines personnes, et notamment des partisans de Thomas Münzer, des prophètes de Zwickau et des spiritualistes de Saint-Gallen. Martin Luther. En 1521 à 1522, alors que Martin Luther se cachait dans le château de la Wartburg après avoir défié l'empereur à Worms en avril 1521, Andreas Karlstadt et d'autres proches de Luther tentèrent de mettre en application certains des changements qu'il avait amorcés en raison de ses nouvelles idées théologiques. Certains de ces changements concernaient la célébration de la scène sans référence au sacrifice et à la présence réelle du Christ, ainsi que la suppression des images dans les églises. Certaines de ces innovations donnèrent lieu à des épisodes fanatiques et incitèrent ensuite Luther à prendre du recul avec ses réformes. Karlstadt, qui avait été un ami et un allié très proche de Luther, devint son ennemi farouche. Et quand Luther retourna à Wittenberg en mars 1522, il lutta contre les réformes que Karlstadt avait lancées en son absence. Parmi les reproches formulés à l'égard de Karlstadt, Luther déclara notamment que son ancien ami faisait preuve du même fanatisme que Thomas Münzer et les prophètes de Zwickau. Il contesta les déclarations de ces réformateurs qui affirmaient recevoir directement des visions de Dieu et entendre la voix même de Dieu. Karlstadt affirma catégoriquement avoir reçu des visions de Dieu, mais Luther ne changea pas d'avis au sujet de son ancien ami, et il le considéra définitivement comme un hérétique et un fanatique. Entré en contact avec Thomas Münzer en 1521, les prophètes de Zwickau furent à Wittenberg en décembre de cette même année. Ils rejetaient le baptême des nourrissons, affirmaient recevoir des révélations de Dieu et prônaient l'usage de la force contre les athées. De nombreux historiens affirment qu'ils influencèrent Karlstadt dans les réformes qu'il engagea en l'absence de Luther. Cependant, les preuves ne sont pas concluantes. Quoi qu'il en soit, leur position concernant les visions et les révélations en dehors de la parole de Dieu n'était pas compatible avec la sola scriptura de Luther et était perçue comme une menace à l'autorité biblique. Rédigé en décembre 1524 et janvier 1525, Against the Heavenly Prophets, menace contre les prophètes divins, fut une attaque virulente contre Karlstadt et les prophètes de Zwickau. Même si Karlstadt tenta de prendre du recul vis-à-vis des révélations et des pratiques peu orthodoxes des prophètes de Zwickau, Luther continua à les associer. 12 ans plus tard, dans les articles de Smalkalde de 1537, Luther continua à rejeter toute nouvelle manifestation de la révélation divine en dehors de la Bible. D'après lui, les réformateurs radicaux enseignaient aux gens qu'ils devaient étudier le grec en dehors de la Bible et s'intéresser avant tout à leurs propres sentiments, à leurs pensées et à d'autres expériences prétendument spirituelles. Toutes ces manifestations étaient suspectes puisqu'elles remplaçaient la parole de Dieu qui, seul, devait faire autorité en matière de foi. Luther écrivit « Concernant les questions relatives à la parole verbale, nous devons réaffirmer que Dieu n'accorde son esprit ou sa grâce à personne, si ce n'est par l'intermédiaire de la parole ou en lien avec la parole qui est prééminente. Ceci nous protège des enthousiastes, c'est-à-dire de ceux qui affirment avoir l'esprit sans et avant la parole. Ils jugent l'écriture ou la parole prononcée et l'expliquent comme ils l'entendent, comme Thomas Münzer l'a fait. » Luther comparait aussi ces nouvelles révélations aux déclarations non bibliques de la papauté, qui sont contraires à l'écriture et au-dessus de la parole révélée. Les visionnaires anabaptistes. Après l'époque des actions menées par Thomas Münzer à Zwickau et plus tard des incidents révolutionnaires de Münster, de février 1534 à juin 1535, ceux qui tentèrent d'imposer des réformes plus radicales à celles mises en place par Luther furent soupçonnés de fanatisme. Malgré certaines différences entre les diverses branches de l'anabaptisme, entre ses tendances militantes d'une part et ses tendances quiétistes d'autre part, tout groupe tenté par l'extrémisme ou désireux de lancer une réforme plus profonde était considéré comme anabaptiste. De nombreuses communautés indépendantes, qui ne cherchaient pas à susciter un antagonisme, furent malheureusement associées aux groupes les plus violents et apocalyptiques du mouvement. Le groupe des protestants du protestantisme, comme les décrit Roger Olson, comprend 3 sous-groupes distincts, les anabaptistes, les spiritualistes et les rationalistes opposés à la Trinité. Le groupe le plus important et exerçant la plus grande influence étaient les anabaptistes qui eurent un impact significatif sur la théologie chrétienne grâce à des responsables comme Balthasar Hubmaier et Menno Simons, dont le nom fut gardé par les Mennonites. Ce groupe, appelé les Frères Suisses, vit donc le jour en Suisse et avait une déclaration de foi simple rédigée en 1527, la Confession de Schleitheim. Pour les catholiques qui faisaient peu de distinction entre les luthériens et les anabaptistes, cette dernière appellation devint un motif bien pratique pour évoquer des intentions révolutionnaires contre la monarchie. Étant donné que le roi de France, François Ier, croyait que les protestants de son pays étaient anabaptistes, Jean Calvin commença à réfuter ses propos en rédigeant sa première édition de « L'institution de la religion chrétienne » en 1536. L'année qui suivit les événements de Münster. Dans chaque édition de l'institution, Calvin évoquait son opposition aux réformateurs radicaux. Comme cela s'était produit pour Luther avec Karlstadt parmi les protestants, l'appellation anabaptiste devint le terme permettant de désigner toute personne associée au mouvement protestant en opposition avec l'État et ayant des visions venant s'ajouter à la révélation de la volonté de Dieu dans l'Écriture. Mais certains responsables anabaptistes charismatiques croyaient à la Nouvelle Jérusalem terrestre. D'après l'historien Geoffrey Treasure, parmi eux se trouvait Melchior Hoffmann, qui cherchait à définir une position théologique alternative à celle de Luther. Les églises devaient être dirigées par les prophètes, et les prophètes devaient être soumis aux messagers apostoliques. Melchior Hoffmann débuta son ministère en tant qu'évangéliste luthérien, mais Luther le désavoua rapidement en raison de ses convictions apocalyptiques et de son rejet de la scène en tant que sacrement. Hoffmann faisait une interprétation allégorique de l'Écriture et du don de prophétie, notamment des livres de Daniel et de l'Apocalypse. Parce qu'il croyait aux visions, il pensait que la fin du monde était proche. Son intérêt pour le don de prophétie et la proximité du retour du Christ était nourri par les rêves et les visions de certains de ses disciples, Léonard et Ursula Jost, Barbara Rebstock et d'autres encore. Ils l'encouragèrent à penser que Strasbourg serait la Jérusalem spirituelle et que lui-même était un nouvel Élie choisi pour annoncer les événements à venir. Certains disciples d'Hoffmann arrivèrent à Münster dans le nord de l'Allemagne en 1534. Jan Matthys trouva dans cette région plusieurs prédicateurs qui étaient d'accord avec lui et une nouvelle prophétie leur fit dire que, finalement, la Nouvelle Jérusalem se trouvait à Münster. L'autre nouveauté fut le recours à la violence. D'après l'historien mennonite Cornelius Dick, Hoffmann était pacifique et il encourageait ses partisans à attendre que Dieu établisse son royaume au moment venu. La possibilité de faire appel à ses fidèles pour contribuer à vaincre le mal par les armes était une option, mais seulement au retour du Christ. Lui-même leur donnerait des épées. Cependant, Matthys enseignait que les fidèles devaient se préparer pour le retour du Christ et trouver leur place dans son royaume en détruisant les méchants. Tous les habitants de Münster furent contraints de se faire baptiser et de se joindre à la communauté, sinon ils devaient quitter la ville. Des préparatifs furent entrepris en vue de la bataille ultime contre les méchants, mais une armée rassemblée par les princes allemands finit par prendre la ville le 24 juin 1535. En raison de ce triste épisode, les anabaptistes acquirent une mauvaise réputation partout. Ils étaient désormais considérés comme des visionnaires et des révolutionnaires, et donc persécutés. En réaction à cette situation et à la confusion qu'elle sema, Luther et Calvin, ainsi que les réformateurs magistériels en général, prirent fermement position contre les anabaptistes et les prophéties modernes. Ce sont également ces événements qui poussèrent les réformateurs à mettre l'accent sur la sola scriptura, le seul critère fiable en matière de doctrine. Les visionnaires et leurs révélations personnelles ayant tendance à produire fanatisme et confusion, la parole de Dieu exprimée dans l'Écriture devint plus que jamais le seul critère de foi et de pratique. La fiabilité de la parole de Dieu était l'unique réponse aux visions et aux révélations subjectives. Pourtant, les adventistes du septième jour partagent un certain nombre des croyances des anabaptistes. Luther croyait à la prêtrise de tous les croyants, et cette idée fut pleinement adoptée par les anabaptistes qui pensaient que, grâce à l'action du Saint-Esprit, les croyants pouvaient comprendre l'Écriture par eux-mêmes. Leur approche du ministère était plus collégiale et ils ne faisaient pas de distinction claire entre le clergé et les laïcs, comme c'était le cas des luthériens. Les anabaptistes acceptaient la fiabilité de l'Écriture d'une façon que les luthériens n'avaient pas envisagée. Le principe de sola scriptura poussa certains anabaptistes à croire au nuda scriptura, rien que l'Écriture, et à rejeter toute autorité établie pour l'interpréter. Ce type d'approche suscita un fort individualisme et, par conséquent, le rejet de toute autorité laïque ou religieuse niant la manifestation de certains dons spirituels. Les premiers adventistes acceptèrent cette approche de l'Écriture et des dons spirituels. Jean Calvin. Comme ses prédécesseurs, Jean Calvin considérait que seule la parole de Dieu faisait autorité et qu'elle était la seule source fiable en matière de doctrine et de croyance. Il rejetait aussi l'idée que les chrétiens pouvaient découvrir la volonté de Dieu en dehors de l'Écriture, dans des révélations spirituelles et des visions. Les réformateurs radicaux et les anabaptistes, qui affirmaient pouvoir communiquer avec l'Esprit, étaient donc suspects. Pour Calvin, on ne pouvait croire à l'Écriture et croire en même temps aux révélations extra-bibliques. Croire aux visions et aux révélations revenait à rejeter la parole de Dieu. Dans sa dernière édition de son Institution de la religion chrétienne, il déclara ceci dans la partie consacrée aux principes de piété qui sont corrompus par les fanatiques qui confondent révélation personnelle et parole de Dieu. Ceux qui, rejetant l'Écriture, imaginent avoir la possibilité de mieux connaître Dieu ne sont pas tant dans l'erreur que dans la folie. Il dit aussi « Tout esprit qui réfute la sagesse de la parole de Dieu et met en avant d'autres doctrines est à juste titre soupçonné de faire preuve de vanité et de mensonge. » Il considérait aussi que les révélations particulières et les dons de l'Esprit ne pouvaient supplanter les paroles de Dieu exprimées dans l'Écriture. Dieu n'a pas adressé ses paroles aux hommes de façon irréfléchie dans l'intention de les abolir au moment où l'Esprit interviendrait. Mais il eut recours à l'Esprit, grâce auquel il avait exprimé ses paroles, pour compléter son action et confirmer clairement ses paroles. Cependant, c'est dans ses commentaires sur l'Écriture que Calvin est le plus explicite s'agissant des révélations et des visions. Pour lui, le don de prophétie n'est rien de plus qu'une faculté de discernement et de sagesse accrue. Dans son commentaire sur le texte d'Actes 2, versets 17-18, qui fait référence à Joël 2, versets 28-29, il déclare que le mot « prophétiser » n'évoque rien d'autre que le don rare et supérieur de la compréhension. Dans le royaume du Christ, il n'y aura que quelques prophètes, mais tous les hommes feront preuve d'une grande sagesse spirituelle, caractéristique de l'excellence prophétique. Son commentaire sur 1 Corinthiens nous permet aussi de mieux comprendre sa pensée. Au sujet du texte de 1 Corinthiens 12, verset 28, et de la mention du don de prophétie dans la liste des dons établis par Paul, il déclara « Par ce terme, prophète, il évoque, à mon avis, non pas ceux qui avaient le don de prophétie, mais ceux qui avaient un don particulier, pas uniquement pour interpréter l'Écriture, mais aussi pour la mettre en pratique avec sagesse aujourd'hui. » Il poursuit « Ainsi, comprenons la notion de prophète comme étant avant tout des interprètes éminents de l'Écriture et de personnes ayant une sagesse et une capacité peu communes, leur permettant de comprendre les besoins de l'Église et d'y répondre, et étant donc des ambassadeurs capables de communiquer la volonté de Dieu. » Dans son commentaire sur les textes de 1 Corinthiens 12, verset 28 et 14, verset 3, Calvin affirme qu'avoir le don de prophétie signifie édifier, exhorter et consoler. Il rejette tout lien et toute association avec le don consistant à prédire l'avenir. Les puritains. Quelques générations après les réformateurs radicaux et anabaptistes, les puritains d'Angleterre furent aussi confrontés à l'émergence de plusieurs mouvements de visionnaires et de prophètes. Ils réagirent de la même façon à ces manifestations spirituelles que les réformateurs, et ils s'alignèrent sur le protestantisme. Les puritains comprenaient les propos de Paul concernant 1 Corinthiens 14 sur le don de prophétie comme une activité relative à l'exégèse biblique associée au témoignage personnel et à l'exhortation, une fois que le prédicateur avait fait son devoir. Tout le monde pouvait être concerné. Au XVIe et au XVIIe siècle, les chrétiens d'Angleterre furent confrontés à l'arrivée d'un grand nombre de faux Christ et de personnes au parcours obscur affirmant être Enoch, Élie ou autres figures extatiques de la Bible. En dénonçant ces faux prophètes, les protestants affirmaient généralement que le don de prophétie avait disparu au fil du temps et que Dieu ne faisait plus de révélations surnaturelles. Le don de prophétie au cours de la Réforme, la perspective adventiste. Avant de conclure ce chapitre, il convient de faire un bref commentaire sur la position adventiste historique concernant ce que nous avons vu jusqu'à présent. En 1936, l'ancien président de la Conférence générale, Daniels, publia un livre intitulé « The Abiding Gift of Prophecy » dans lequel il étudiait la manifestation du don de prophétie dans l'Église, et ce, de façon continue jusqu'à Ellen White. Ses arguments et son interprétation ont été le fondement de l'approche adventiste à ce sujet pendant des années, mais ses arguments posent désormais des problèmes d'interprétation. Le titre de cet ouvrage en dit long sur son contenu. Daniels traita la question de la continuité du don de prophétie et tenta de montrer ou de donner suffisamment d'éléments pour insister sur le fait que ce don de prophétie devait demeurer dans l'Église depuis Adam jusqu'au retour du Christ. Il déclara aussi « Il n'a pas pris fin avec les apôtres, mais on constate qu'il s'est manifesté au fil des siècles et il en sera ainsi jusqu'au dernier jour de l'histoire de l'humanité, juste avant le retour de notre Seigneur. » Dans l'introduction de ce livre, Leroy Froome va dans ce sens et ajoute que « Le don de prophétie s'est manifesté dans la véritable Église de Dieu de tout temps et sous toutes les dispensations. Ce don est la caractéristique de « l'Église du reste » qui s'inscrit dans la lignée de la réforme du XVIe siècle, et il, ce don, restaure la plénitude de la foi et des pratiques apostoliques. Ainsi, pour Daniels, nous sommes inévitablement amenés à conclure que le don de prophétie a été voulu par Dieu pour le bien de notre monde et pour tous les temps. Il est présent dans l'Église aujourd'hui tout autant que par le passé et nous en avons un besoin crucial. La pensée de Daniels sur la continuité du don de prophétie entre dans le cadre d'une interprétation adventiste importante de l'histoire. Comme Ellen White l'avait déjà déclaré dans son livre « La tragédie des siècles », Daniels et d'autres croyaient que Dieu avait spécifiquement appelé l'Église adventiste du septième jour à la fin des temps pour accomplir une mission particulière en vue du retour de Jésus. Cependant, quand Daniels met en avant la continuité du don de prophétie au fil des siècles entre les débuts de l'Église primitive et son époque, la définition qu'il utilise pour définir ce don pose problème. Manifestement, il n'utilise pas toujours la même définition du don de prophétie et, sans le vouloir, il brouille le sens de l'inspiration divine en raison de son approche de ce don spirituel. Parfois, ce don fait référence aux visions et aux rêves surnaturels. Parfois, c'est une lumière spirituelle permettant d'expliquer la parole de Dieu, et dans d'autres cas, c'est un vif désir d'être fidèle à la parole de Dieu. Daniels affirme presque que tout mouvement s'opposant à la papauté au début du Moyen-Âge est un mouvement prophétique et possède donc le don de prophétie. Ou il entrevoit du moins la possibilité que le don de prophétie ait été présent dans ces mouvements. Ces définitions ne correspondent pas à la définition que donne aujourd'hui l'Église adventiste du don de prophétie tel qu'il a été reçu et défini par Ellen White. Ainsi, nous pouvons nous interroger sur les preuves historiques de l'existence d'un don de prophétie similaire à celui d'Ellen White. Pourtant, étonnamment, Daniels reconnaît la faiblesse de son argumentation. Tout en ayant la conviction que le don de prophétie devait se manifester de façon continue jusqu'à la fin de la dispensation de l'Évangile, conformément à la volonté divine, nous pensons qu'il ne nous revient pas d'établir l'authenticité de l'appel de tel ou tel individu ou de tel ministère dans ce bref traité. Nous avons des témoignages historiques datant du IVe siècle jusqu'au VIIIe siècle qui semblent assez convaincants dans un certain nombre de cas. Mais nous considérons qu'il ne serait pas sage de citer des noms posant un certain nombre de questions légitimes, ce qui nuirait à l'objectif que nous voulons atteindre. Nous nous contenterons donc, en ce cas précis, de réaffirmer premièrement notre conviction selon laquelle le ciel a fait luire sa lumière tout au long de cette période de ténèbres, non seulement grâce aux Écritures elles-mêmes, mais également par le biais de porte-paroles choisis par Dieu qui désiraient communiquer avec les hommes grâce au don de prophétie. Deuxièmement, nous voulons présenter des témoignages ayant un caractère général afin de justifier cette conviction. Pour Daniels, le don de prophétie se manifestait dans la vie de gens fidèles à Dieu qui étudiaient la Bible et comprenaient son véritable message, qui dénonçaient les erreurs et suivaient la lumière qu'ils découvraient. Ces personnes fidèles rendaient témoignage de la lumière de la parole de Dieu. Ainsi, il associa le concept de messager prophétique de Dieu, comme les prophètes de l'Ancien Testament ou Ellen White, et celui de témoignage de la vérité telle qu'elle était déjà révélée par un prophète cherchant à réformer l'Église. Selon lui, tous les précurseurs de la réforme protestante tels que l'Église évangélique vaudoise, Wycliffe, Huss et Jérôme avaient le don de prophétie. Il considérait aussi les responsables de ces mouvements de réforme comme des « responsables inspirés ». La distinction que fait Daniels entre les responsables inspirés et les interprètes fidèles de l'Écriture vient de Luther. En fait, beaucoup de théologiens et de biographes de la vie de Luther lui attribuent cette expression. Luther et Calvin comprenaient le don de prophétie dont il est question dans 1 Corinthiens 14 comme l'interprétation fidèle de la parole de Dieu au sein de l'Église, un ministère que Luther et Calvin accomplirent avec beaucoup de courage et de détermination. Quelle position devons-nous adopter concernant le manque de preuves et d'arguments au sujet de la continuité du don de prophétie au cours des siècles qui s'écoulèrent entre l'Église primitive et Ellen White? Le fait que Daniels ait adopté plusieurs définitions du don de prophétie et donné un sens large à ce don lui permit de trouver des signes de la présence, de l'action et de l'inspiration de témoins fidèles au cours des périodes de la Réforme ainsi que celles qui la précédèrent et la suivirent. Au fil des années, les commentateurs, suivant l'interprétation des réformateurs magistériels, ont accepté une définition plus large du don de prophétie dans leur interprétation de 1 Corinthiens 12 et 14. Pour résumer, ils considèrent le don de prophétie comme un éclairage inspiré du sens de l'Écriture, comme c'est le cas dans le cadre du ministère des prédicateurs et des partisans d'un réveil, ou comme une exhortation pour certains croyants dans un contexte particulier. Cette définition correspond à la façon dont Daniels parle du don de prophétie dans son livre, mais il ne s'agit pas de la même sorte de don de prophétie que les adventistes voient chez Ellen White comme l'accomplissement du témoignage de Jésus à la fin des temps. Les adventistes font généralement une distinction claire entre l'éclairage que reçoit un pasteur de la part du Saint-Esprit lors de la préparation d'une prédication, ce qui correspond à un discernement particulier concernant l'interprétation de l'Écriture, et l'inspiration divine d'un prophète ou d'Ellen White. Bien que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans les deux cas, l'éclairage divin et l'inspiration sont deux dons différents, accordés pour des buts différents. Les exemples de la manifestation du don de prophétie que donne Daniels sont insuffisants. Il justifie l'idée de la possibilité d'une manifestation du don de prophétie au fil des siècles, mais ce ne sont pas des preuves tangibles. Ainsi, une question demeure. Le don de prophétie se manifeste-t-il réellement de façon constante? Les réformateurs ne le pensaient pas. Conclusion. Tandis que les adventistes du septième jour marquent le 100e anniversaire de la mort d'Ellen White, ils sont confrontés à plusieurs questions. L'une d'entre elles est le sens du don de prophétie et sa continuité dans l'Église au fil des siècles. Notre étude de la manifestation du don de prophétie au cours de la Réforme et de la façon dont les réformateurs le comprenaient permet de mettre l'accent sur quelques idées importantes. 1. L'étude menée par Daniels en 1936 sur la continuité du don de prophétie, qui est soutenue par l'interprétation historique de Leroy Froome, ne permet pas de montrer que le don de prophétie, tel qu'on l'observe dans le ministère d'Ellen White, se manifesta entre l'époque des apôtres et la sienne. Daniels affirme que plusieurs personnes revendiquèrent ce don, mais la plupart d'entre elles furent discréditées en raison de leur position ou de leur pratique. La façon dont Daniels utilisa l'expression « don de prophétie » brouilla les différentes significations de cette expression. Ainsi, si nous ne disposons pas de suffisamment de preuves indiquant que le don de prophétie fut exercé de façon continue, est-il possible que le don d'Ellen White soit une manifestation exceptionnelle de ce don en ces temps de la fin? Quel serait l'impact de cette idée sur le concept de continuité des dons? 2. Si nous acceptons l'idée de la continuité du don de prophétie depuis l'Église primitive jusqu'à la fin des temps, mais sans preuve de sa manifestation, devons-nous adopter une définition plus large du don de prophétie? Autrement dit, devons-nous inclure dans cette définition les responsables inspirés, les prédicateurs avisés et les précurseurs fidèles, comme le suggère Daniels dans son étude, et comme le suggèrent aussi certains théologiens qui perçoivent ainsi le ministère de Luther. Un prophète serait une personne qui, en partie ou de façon plus globale, expliquerait le passé par le biais de l'Écriture et exhorterait la communauté à faire preuve de foi et de persévérance. Les rêves, les visions, les révélations spéciales et les phénomènes surnaturels ne seraient pas nécessaires pour revendiquer le don de prophétie. Cette définition plus large redéfinirait-elle le ministère d'Ellen White? 3. Enfin, Un autre point soulève des questions concernant la compréhension adventiste du don de prophétie, à savoir la façon dont les réformateurs comprenaient les visions et les révélations, et leur conviction que le fait d'accepter ces manifestations revenait à nier le principe de sola scriptura. Les réformateurs rejetèrent les éléments sur lesquels Daniels et Froome se fondèrent plus tard pour justifier l'existence du don de prophétie. Les adventistes ont toujours affirmé que le principe de sola scriptura n'était pas remis en cause par la manifestation du don de prophétie dans la vie d'Ellen White. Les réformateurs n'acceptaient pas l'idée d'un lien nuancé entre le rôle de l'écriture et celui des révélations et des visions surnaturelles. En réalité, les réformateurs magistériels croyaient que la manifestation du don de prophétie n'était plus nécessaire, puisque la parole de Dieu était la seule règle de foi et de pratique. Cette position reste très répandue dans le christianisme aujourd'hui, et elle continue à nous faire réfléchir sur la position adventiste.